Bonjour Yann Brossat.
Bonjour.
La fête de l'humanité, c'est-à-dire la fête du Parti communiste, s'est achevée hier. Jean-Luc Mélenchon n'y était pas et pourtant, il semblait un peu dans tous les esprits, au cœur de toutes les préoccupations, notamment lors du discours de Pierre Laurent. Est-ce qu'il vous agace, Jean-Luc Mélenchon ?
Non, Jean-Luc Mélenchon était notre candidat à l'élection présidentielle. Je l'ai soutenu et je l'ai parrainé. Il a d'ailleurs mener une belle campagne. Après, il y a une réalité, c'est que la gauche, ça n'est pas que Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut s'habituer à l'idée que la gauche est multiple, qu'elle est diverse. Et moi, je suis convaincu que si on veut avoir une gauche forte dans notre pays, on a besoin qu'elle se rassemble dans sa diversité.
Quand vous dites la gauche, ça n'est pas que Jean-Luc Mélenchon, vous parlez des personnes ou vous parlez de la ligne politique ?
Je pense qu'il y a aussi un débat à mener avec Jean-Luc Mélenchon, précisément sur notre conception de la gauche. La gauche, ça ne peut pas être un homme qui décide de tout. La gauche, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'on accepte l'idée qu'elle puisse avoir plusieurs voix.
C'est ce qu'a voulu dire Pierre Laurent quand il dit « personne ne peut prétendre détenir la vérité à lui tout seul ».
Je crois que c'est ce que Pierre Laurent a voulu dire et j'approuve cela. Moi, je suis vraiment convaincu qu'aujourd'hui, on a un impératif d'unité. On a face à nous un pouvoir qui mène une politique ultra-libérale, une politique thatchérienne. C'est Emmanuel Macron. Face à ça, on a besoin que la gauche se manifeste et que pour cela, on a besoin d'avoir cette diversité-là. Et ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon tout seul qui décide des initiatives à mener.
Mais qui d'autre que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui peut incarner une gauche combative, puisque c'est ce dont vous avez besoin, si on comprend bien votre message.
Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, ne veulent pas de la politique du gouvernement. Il y a des socialistes, il y a des écologistes, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans un parti politique. Certes, Jean-Luc Mélenchon a réalisé 7 millions de voix à l'élection présidentielle, mais il n'y a pas 7 millions de fans de Jean-Luc Mélenchon dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui parce que c'était le vote utile à gauche. J'en fais d'ailleurs partie. Et bien, tous ces gens-là, il va bien falloir qu'à un moment donné, ils se retrouvent, ils puissent riposter à la politique du gouvernement et que tous ces gens-là aussi puissent construire l'alternative au pouvoir.
Alors Jean-Luc Mélenchon a répondu au propos de Pierre Laurent depuis l'île de la Réunion où il est en déplacement en parlant d'une direction du Parti communiste en perdition qui s'accroche et qui ne s'exprime plus que contre moi. Est-ce qu'elle est en perdition, cette direction du Parti communiste ?
Je ne le pense pas. Et je pense très sincèrement que personne n'a intérêt à rentrer dans un débat de ce type. Regardons les responsabilités qu'on a dans la période. Il y a la loi travail, il y a des dispositions extrêmement dangereuses en matière de logement qui vont être prises par Emmanuel Macron. Et face à ça, si nous, à gauche, on passe notre temps à s'invectiver de cette manière-là, c'est totalement contre-productif. Nous, ce que nous souhaitons, c'est l'unité, c'est le rassemblement, et je crois que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre si nous voulons être crédibles vis-à-vis des gens qui souffrent aujourd'hui de la politique d'Emmanuel Macron.
Bon, toutes ces amabilités ne remettent pas en cause la présence des communistes le 23 septembre prochain, pour la mobilisation contre le Code du travail à l'appel de la France insoumise. Ça ne remet rien en cause.
Bien sûr, il y aura une délégation du Parti communiste qui sera là le 23 et nous serons aussi présents le 21 lors de la journée syndicale, notamment organisée par la CGT.
Vous espérez encore aujourd'hui pouvoir faire plier Emmanuel Macron sur la réforme du travail ?
Je l'espère. D'abord, je note qu'il y a une forte hostilité de la population à cette loi. Il y a encore un sondage ce matin qui montre que 60% des Français considèrent que cette loi va précariser les salariés.
Et c'est 68% qu'elle favorisera les licenciements. Mais ce même sondage indique que un tiers seulement des Français soutiennent la mobilisation sociale. Alors, c'est un peu paradoxal. Comment vous l'expliquez, ça ?
Parce qu'on est au début du mouvement et qu'il y a eu, il faut bien le dire, beaucoup de commentaires qui ont visé à minimiser la première manifestation. Je pense que ces mobilisations vont monter en puissance et qu'au fur et à mesure, les Français vont prendre conscience du caractère extrêmement dangereux de cette loi. Et j'ai effectivement bon espoir que nous puissions faire reculer le gouvernement sur ce sujet.
On entend pourtant des leaders syndicaux qui disent que ça n'est pas la grande casse sociale annoncée. Au fond, aujourd'hui, il n'y a que les communistes, la France insoumise et la CGT pour dénoncer cette loi. Est-ce que c'est pas trop peu pour réussir cette grande mobilisation que vous espérez ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la population française, il y a un rejet de cette logique de précarisation généralisée du monde du travail. Et ce qui compte le plus quand même, c'est ce que pensent les Français. Et je pense que en s'appuyant sur cette opinion publique, si on réussit à faire la démonstration que ça fait du monde dans les rues, À ce moment-là, je pense que le pouvoir devra en tenir compte et qu'il ne pourra pas rester aveugle à cette opposition de la population de notre pays.
Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants le logement, et c'est un dossier que vous traitez au quotidien. Une nouvelle étape est annoncée donc dans la réforme des aides personnalisées au logement, les fameuses APL. Leur montant serait diminué pour les locataires de logements sociaux, mais la baisse, dit le gouvernement, serait prise en charge par les bailleurs sociaux qui ont immédiatement protesté en disant que ce serait une surcharge financière difficile à supporter. Est-ce qu'en effet, ce serait une perspective inquiétante pour les bailleurs sociaux ?
C'est de l'escroquerie en bande organisée. Et que fait le gouvernement ? Le gouvernement dit on va baisser les APL jusqu'à 50 voire 60 euros dans le parc social. Et qui va payer ? Ce sont les bailleurs sociaux. Sauf que la conséquence de tout ça, elle sera très simple. Les bailleurs sociaux auront moins de trésorerie et ce seront soit des logements sociaux construits en moins, au moment où on a besoin d'en construire énormément, soit des logements sociaux qui ne seront pas réhabilités. Vous savez, j'ai regardé très concrètement ce que cela signifie à Paris. Pour notre premier bailleur, Paris Habitat, ce sont 30 millions d'euros qui partent en fumée tous les ans avec cette mesure. Et ce sont donc 1000 logements sociaux réhabilités en moins à Paris, rien que chez Paris Habitat. Comment peut-on prendre des engagements internationaux, notamment avec la COP21, et dans le même temps empêcher les bailleurs sociaux de rénover leur parc pour s'adapter aux normes environnementales. Je le dis très clairement, cette mesure est très dangereuse et je pense que le gouvernement ferait bien d'y réfléchir à deux fois avant de mettre le doigt dans cet engrenage.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la politique actuelle du logement est une forme de gabegie et qu'il y a véritablement des choses à changer ?
Il y a évidemment un certain nombre de choses à regarder, notamment les avantages fiscaux dont bénéficient un certain nombre d'investisseurs. Je pense au Pinel qui coûte 2 milliards d'euros chaque année. Si le gouvernement veut faire des économies, qu'il regarde de ce côté-là. Mais aller taper dans la trésorerie des bailleurs sociaux alors qu'on a besoin de faire du logement social, je le dis très clairement, c'est complètement contre-productif.
Oui. Alors il y a la réforme du Code du travail, on en a parlé, le logement, les régimes spéciaux de retraite, avec celui des cheminots notamment. Le président de la République aujourd'hui semble ne reculer devant aucun sujet sensible. Comment vous l'expliquez ça ? Est-ce qu'il se dit que la France est prête à ces fameuses réformes structurelles dont on parle depuis tant d'années ?
Je pense surtout qu'Emmanuel Macron a décidé d'utiliser le début de son quinquennat pour taper tout ce qu'il peut et pour réaliser en France une politique ultralibérale comme on n'a jamais connue. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est le sourire de Kennedy et la politique de Margaret Thatcher. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans les années 80 et que les réponses qu'il propose sont, de mon point de vue, complètement à côté de la plaque parce qu'elles vont faire exploser les inégalités sociales. Et puis vous évoquez ces mesures, mais dans le même temps, c'est un cadeau de 3 milliards d'euros pour ceux qui aujourd'hui payent l'ISF. Donc on voit bien qu'on est dans une logique qui vise uniquement à favoriser les plus riches au moment où notre pays souffre d'inégalités sociales.
Merci Yad Brossard.
Merci
à vous. Bonne journée.